Hallelujah. Hallelujah. Bien. Ce ministère a comme axe principal, c'est au pluriel s'il vous plaît, axe principal, l'enseignement, la délivrance. Maintenant, comme l'enseignement c'est la parole, comme la parole est le meilleur élément de délivrance, c'est pourquoi là-dedans vient se greffer automatiquement la guérison,
Amen.
La prophétie,
Amen.
Et les miracles.
Amen.
Tout est disponible dans ce ministère, il n'y a pas de limite ici. Donc nous avons l'enseignement, vous pouvez avoir en version diverse, évangélisation, exhortation, enseignement pur, ou bien vous pouvez avoir, n'est-ce pas, les délivrances telles qu'on les a de façon traditionnelle, vous pouvez avoir les guérisons telles qu'on les a de façon... Bon, c'est quand même drôle que je dise ça de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le surnaturel, ce n'est pas aussi traditionnel que ça. C'est que quand on est habitué au miracle, le miracle devient la norme. Mais bon, traditionnel pour ceux qui sont habitués au miracle. Hein? Permettez l'expression. Donc, on a tout le stock qui est disponible. Et il se trouve que cette année 2017 sera une année extrêmement spectaculaire au sein de ce ministère. Il y a beaucoup de gens qui auront le vertige.
Amen.
Et tous ceux qui nous regardent de l'extérieur avec condescendance en disant qu'il y a. Ils font quoi là-bas? Nous aussi, on va leur dire que, y'a, vous faites quoi dehors? Alors que ça se passe déjà. Cette année va être extraordinaire parce que le Seigneur va allier des miracles à donner vraiment le vertige à tout le monde. Cette année va être extraordinaire parce qu'il va avoir des délivrances spectaculaires. Cette année va être extraordinaire parce qu'il va avoir des guérisons miraculeuses. Cette année va être extraordinaire parce que les prophéties ont même déjà commencé à se matérialiser. On se finit des témoignages qui sont tombés les dimanches précédents, il y a de quoi compter que ça a déjà commencé. Et cette année va être extraordinaire parce que beaucoup de personnes ici, dans ce ministère, ont des dons qui ont commencé à s'allumer. Je suis bien amusé de voir mes enfants qui viennent me dire que papa, mais j'ai vu une armure chez moi. Ils croyaient que vous pensiez que les enseignements qu'on donnait sur les dons ministériels et les dons spirituels, c'était pour que ça passe au-dessus de la tête à travers. C'était pour que ça s'implémente dans vos vies. Et ça a commencé. Il y a des gens qui voient des armes, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient avoir des armes. Il y en a qui voient qu'ils ont des armures sur eux. Oui, oui, oui. Ils ont l'air inoffensifs, mais ils savent déjà lutter dans le monde spirituel. Au point où on commence à les fuir. Les gens sont poursuivis. Regardez la scène. Avant qu'ils arrivent à ce ministère, ils passaient en plus. Maintenant, c'est eux qui ont fui. Et c'est eux qui fuient. Il y a un docteur qui sont devenus Iron Man, version spirituelle. Qui bombarde. En fait, l'enseignement que vous avez reçu concernant les dons ministériels, c'était pour préparer les uns et les autres à devenir, pour cette année-ci, parce que ça va se matérialiser. Certains vont devenir des prophètes. Il y en a qui vont devenir des évangélistes. Il y en a qui vont devenir des pasteurs. Certains vont devenir des enseignants. Dans ce ministère. Hein, c'est, tu vas être de quelle année? Chimie. Entre les muscles physiques et l'armée spirituelle, tu préfères quoi? Voilà, même pas pour rien que tu as vu l'armure spirituelle. Dieu a de meilleurs plans pour toi parce que tu t'es attaché à la parole. Et notre secret est là. On charge dans les enseignements. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec, était Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. Si on veut fabriquer des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, c'est à travers la parole. Qui est la parole de Dieu? Plus vous vous équipez dans la parole, plus vous avez une relation intime avec la parole, plus vous faites un avec la parole, plus vous grandissez sur le plan spirituel, plus vous n'êtes pas la théorie, c'est la pratique. Je parle à ceux qui, quand on finit de leur parler, demandent que oui, les parents de Jésus, c'est concrètement. Pour eux, Jésus, ce n'est pas concret. Je crois qu'ils vont souffrir dans les familles, quand certains enfants qui sont ici vont commencer à faire des délivrances intimes. Et sur place. Că l-am fan pe cea femeie zăcidică, m-am zis că m-am aia! Tu ești plăcut cum asta zică un lege. Este că se felice că e plăcut de nou bani. Rebanta asta tu te-a dat panac pe obiul ăștia, așa nu am cont că beaucoup d'entre vous voie să decide distunement dans leur famille. Eu nu comprend pas, mais ça s'est passé comment? Mais ça s'est passé là pendant qu'on enseignait les gens, là, d'écouter les enseignements, là, de dire la parole, c'est comme ça qu'ils sont en train de grandir. Il y en a plusieurs qui sont équipés comme des chérubins. Il y en a qui le don de parler en langue s'est allumé. Il y en a qui le don de prophétie s'est allumé. Il y en a qui ont déjà reçu la promesse de quoi? Don de sagesse, parole de sagesse. Bon, voilà. Bon, on a donné tous les enseignements là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des évolutions intéressantes. Bon, naturellement, lorsque vous êtes en train de grandir comme ça, et que votre père soit fier de vous, le père de votre père, lui aussi, est fier de lui, et c'est comme ça que les choses continuent à descendre sur le père. Ça veut dire qu'il va y avoir du sport. Vous parlez le français commun. Je suis très heureux parce que nous sommes en train d'arriver à la bonne cadence, où on a un rythme d'enseignement qui fait que les gens commencent à vivre dans la parole, respirer la parole, manger la parole, dormir avec la parole, se réveiller avec la parole. Il y en a un qui se réveille de très bonne humeur, il vient me demander comment pas, pourquoi je me réveille en bonne humeur. Mais quand tu dors à la parole, tu as l'air de te faire, pourquoi tu veux pas te réveiller en bonne humeur? Tu veux te réveiller comme avant? Quand on te dit lève ça, mon corps, c'est mal à tant d'abord. C'était la vie de captivité. Lorsque vous sortez de la captivité, vous n'avez pas à avoir cette souffrance. Et ceux disant déjà, tu dors, tu ne te rappelles pas intérêt. Il y en a qui sont normaux là-dedans. Hein. Non, mais ça fait 10 ans, ils rêvent parce qu'ils regardent dit que, Donc, ça, tu sens que c'est la norme de ne pas rêver. D'autres, on le poursuit souvent, hein. On le poursuit pourquoi? C'est le con, c'est le parler, c'est un jinkit, on te poursuit pourquoi? Quand tu demandes à quelqu'un, quels sont les animaux que tu vois souvent dans la terre? Je ne le sais pas, moi je n'ai pas vu les papillons. C'est parfait quoi dans la terre, il a une intuition. Les gens ne sont pas habitués à la sorcellerie, au fond, la vie à Dieu leur semble bizarre. Et finalement, guérir même leur semble curieux. Or, la norme est bien que dans la vie en Christ, et de ne pas être en captivité, qu'est-ce qu'il y a que quelqu'un fait 70 kilos, quand il doit marcher en journée, il sent comment il pèse. C'est quoi tu as 120 kilos? Pourquoi ton corps pèse? Tu es surchargé de poison. C'est le fond du problème. Et tu as un poison quand tu lèves pendant que tu dors. Un de deux ans, les règles douloureuses. Quand elle sait que ça va venir demain, elle commence à souffrir aujourd'hui. Demain. Mais c'est parce que tu as avouté. Il y a des femmes qui jouent au billes là-bas, ils se font les pattes à moitié orientée, frappe instantanée, l'autre aussi à moitié. Ça veut dire tous les dispositifs. En fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Le thème d'aujourd'hui, c'est la guérison divine. Ces gens, comme les femmes qui viennent souvent me dire, il y a une qui m'a traumatisé l'autre jour. Demain, moi, docteur, il me faut que tu puisses avoir mon deuxième enfant cette année. Le père du premier est où? Tu es marié, tu es un fiancé, il te faut à tout prix avoir le deuxième. Tant qu'elle a choisi celui qui a venu naître, tu ne vois pas que ta vie est bizarre. Les gens sont envoûtés à un tel niveau et tellement confortablement assis dans l'envoûtement que ça ne leur pose même plus de problème. Rien ne marche. Tout ce que tu essayes, ça ne marche pas. Comme tu t'assurais parce que ton corps fait, tu es toujours foiré. Quand tu essayes un concours, il y a un enfant qui m'a traumatisé dans un taxi à Réunion. Il a fait déjà les concours 27 fois. J'ai été obligé de ma part de vie parce que là, c'est un record. 27 fois. Et quand elle regardait comme ça, elle voyait qu'on l'a touché dans sa famille bien. Il a besoin d'une délivrance. Il a besoin de guérir dans toutes les dimensions de ce qu'on appelle guérir. Guérir son esprit, son âme et son corps. Je vais vous dire quelque chose. C'est un exemple qui me vient comme ça à l'esprit. Imaginez un garçon comme ça, pas tellement aigri que ce qui a fait que ce qui a attiré mon attention sur lui, il voit un jeune lieutenant et il se clame à haute voix. Puis dis donc, un enfant comme ça est lieutenant. Ce gars est tellement assis dans la misère, tellement habitué à l'échec que le seul fait que tu sois jeune et que tu aies réussi pose un problème pour lui. Son âme souffre. Son âme souffre. Il peut se voyager pour rire parce que son âme souffre. Il vit l'injustice. Le diable veut juste s'asseoir dans sa vie confortablement. Là, c'est les enfants, les petits-fils, les arrières-petits-fils. Il y a les arrières-arrières-petits-fils que le diable a fait dans sa vie. Donc, s'il voit quelqu'un qui a émergé un peu seulement, il demande que pourquoi celui-là a émergé. Pourquoi il n'est pas dans la misère comme moi. Pourquoi il n'est pas en bas comme moi. Ce n'est que là où le diable est bien assis que vous voyez que réussir est devenu suspect. Les gens ont besoin de délivrance, ils ont besoin de guérir. Ils ont besoin de guérison divine. Parce que là, il n'y a que la guérison divine. Le médecin ne peut pas savoir qu'on a bloqué son emploi par la sorcellerie. Il n'est pas compétent pour ça. Tu vas déposer les CV partout où tu veux. C'est que, on regarde les CV, on voit pas les tiens. Le médecin ne peut pas savoir que son bas va entrer là où tu crois que tout va bien. C'est terrible. J'ai vu des choses. Je me rappelle d'une fille, elle avait l'air en très bonne santé. Pour un médecin, elle est en très bonne santé. Mais elle était terrible. Il y a beaucoup de filles terribles comme ça. Mais son cas était très intéressant. Son utérus spirituel. Est-ce qu'il faut bien comprendre? Celui que le médecin ne voit pas. Donc le médecin ignore jusqu'à l'existence. Un sorcier est bien parti en forêt avec. Ça veut dire que cette femme pouvait avoir la population, elle, les hommes les plus sains de la planète, la grossesse n'allait jamais commencer. Ah, il faut que je vous explique. L'enfant qui naît, hein, c'est le bébé spirituel qui arrive dans l'utérus spirituel et l'utérus matériel lui fabrique la vie qu'on appelle le corps. Est-ce que l'enseignant m'a compris? Donc, si quelqu'un a volé l'utérus spirituel, même si l'utérus matériel est là, en très bonne santé, la grossesse ne commencera jamais, puisque l'enfant n'est même pas arrivé. L'homme est d'abord spirituel. Si à l'origine, le processus spirituel n'a pas été en santé, le processus matériel ne va pas suivre. Il y a beaucoup de femmes qui ont les myomes, les kystes, les fibromes, c'est spirituellement que ça a été fait. Quand on enlève pas le gramme qui est là-bas, ou les serpents qui jouent souvent aux tatamérines là-bas, ou c'est pas encore ce qu'on a mis comme poison à travers les couches de nid, fait toutes les opérations chirurgicales, la grossesse, il n'y aura même pas de nidation. Il y a des cas où c'est tellement avancé que même la fécondation ne peut pas avoir lieu. Puisque, imaginez que vous ayez un dépôt de poison dans votre corps qui est équivalent à l'épaisseur d'une lame de rasoir. Ça, c'est pour un jour. Après, vous avez le même dépôt comme ça 300 fois par an. C'est toujours l'épaisseur d'une lame de rasoir. Ça commence à être gros comme ça. Et imaginez que ça se passe pendant 10-15 ans. Ça, c'est l'épaisseur, le niveau de poison dans votre corps. Bienvenue dans le monde réel. Parce que quand on vous parle de guérison divine, il faudrait déjà qu'on commence à faire des diagnostics sur les maladies spirituelles, spirituel, matériel, et que les uns et les autres comprennent pourquoi cette thématique est importante. Vous ne pouvez pas avoir une grossesse là où il y a une saturation de votre appareil de reproduction au poison. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de guérison divine. Le médecin ne peut pas voir la vraie source de votre stérilité. Il y a plein de gens qui divorcent ici. Personne ne sait la vraie chose du divorce. La vraie chose du divorce est simple. Il y a un esprit qui est arrivé là-bas, il a épousé ta femme, un autre est venu épouser toi, l'homme. Chacun est marié dans l'autre monde. Et chacun des maris que tu as est très jaloux. Femme ou mari, très jaloux, bien entendu. Il veut à ce que le mariage ne fonctionne pas. Si les femmes, ça commence par faiblesse, le libido, de ta vie faiblesse de désir sexuel. Tu es marié, ton mari, tu ne le veux plus. Tu sais pourquoi? Il y a un travail qui est fait sur vous. Vous êtes là devant vous coucher dans le lit, un esprit vient se coucher au milieu. Qui vient installer la dizaine? Je vais laisser la régler ça. Tu as besoin de guérison divine. Les femmes ont l'habitude de légitimer à cause de l'ignorance banalisée, vulgarisée, presque institutionnalisée. Elles ont l'habitude de légitimer la sorcellerie dans leur corps. Elles sont nombreuses à parler de vers, de femmes. Je ne sais pas ce que ça signifie d'un point de vue clinique. Elles sont nombreuses. Ah, vraiment, c'est le vers de femme qui me dira. Quel vers de femme? Tu as vu dans la constitution de la femme qu'il y a un vers qui doit aller vivre là-bas en bas et danser. Ce n'est même pas un vers, c'est le serpent qui danse dans son papa. Une seule fois là, je demande souvent aux femmes que quand vous sentez les mouvements dans le bas-ventre, vous connaissez quel organe qui se déplace. Quand on est ignorant, on ne comprend rien. Et quand on n'a pas reçu l'enseignement de Dieu, on ne réalise jamais le danger. On a des appuis sur toi. Ah, c'est le verre des femmes qui me dira, quel verre des femmes, tu as en goûté. Bien. Elles sont nombreuses. On parle de guérison de Guinée sans pas la gravité de la problématique. Elles sont nombreuses à avoir l'habitude de rêver qu'elles ont accouché. Mais ici, là, il n'y a pas d'enfant. Tu rêves que tu as accouché, pourquoi? Tu crois que c'est le rêve? Tu as accouché vraiment. Quand tu vas donner un enseignement comme ça, tu vas aller directement, mais tu vas comprendre de quoi on parle. Quand tu rêves que tu as accouché, tu as véritablement eu un accouchement. C'est-à-dire, on a prélevé les yeux dans ton baban, on a allé les éconner dans l'autre monde, tu as accouché les démons. Vous croyez que quoi? Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Il y en a beaucoup qui souffrent d'inactivité pour des raisons plus ou moins compréhensibles. Inactivité sexuelle. Et ils développent finalement, permettez l'expression, une addiction aux couches de nuit. C'est qu'ils aiment ça tellement. Ça lui fait du bien. Quand on n'arrive pas à faire ça dans le monde de Didi, on fait ça dans le monde de Didi. Et c'est romantique. Quand ça se passe, on te vole les étoiles, on te vole les grâces, on te vole l'argent, on te vole le travail, on te vole le mariage, on te vole les enfants, on te vole les voyages, on te vole les opportunités d'affaires, on te vole les contrats, on te vole la santé. C'est ce qui se passe réellement pendant beaucoup de nuits. Il y a des petites choses que quelqu'un ne vous dit. Comment vous trouvez normal que quand vous vous réveillez le matin, vous soyez fatigué? Avant de dire ça, il y a une chose qui me vient à l'esprit. J'ai dit un jour à une fille, mais tu as l'estomac. Elle dit, mais comme tout le monde, comme tout le monde, tu as un drapeau dans l'estomac. Donc tout le monde a un drapeau dans l'estomac. Si tu n'as pas assez dormi, tu ne dois pas être fatigué, mais tu dois avoir sommeil. Et vous comprenez la différence. C'est pas parce que quand on n'a pas assez dormi, et il est fatigué. Si tu es fatigué parce qu'on t'a attaqué, ce n'est pas normal que tu viennes du sommeil, tu es fatigué. Sommeil, c'est-à-dire repos. De là où tu te reposes, tu dois te lever en forme frais, limpide, nickel, nyanga, scintillant, scintillant comme une fille. C'est de là-bas que tu viens fatigué. Mais il n'y a même pas de problème. Tout va bien. L'ignorance est un fléau mortel. Et cette affaire-là que quelqu'un ne rêve pas. Mais quand vous n'avez pas de rêve, vous êtes en danger, c'est la preuve matérielle, là je vais vous expliquer, c'est la preuve matérielle qu'il y a quelqu'un qui vole les rêves là. C'est une technique que les sorciers utilisent, comme les voisins qui sont ici, qui essayent de tout, parce qu'ils n'aiment pas quand les fils sont les bombards. Parmi leurs stratégies, ils appellent ça la technique du brouillard. Donc quand on a fini de se malasser comme le couscous, on balance le brouillard, on efface ses souvenirs. Si tu te réveilles, tu te rappelles du rien. Et ça, il s'est attaqué. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà sérieusement empoisonnées, ça ne rend pas compte. quoi? Et même beaucoup de montagnes. Ils ont dit, manger la nuit, tu manges quoi dans les rêves? Quand c'était le couscous, lui, on a fait une copie imaginaire de ce que tu fais. Si c'est le couscous que tu aimes, c'est ça qu'on va te donner. Mais c'est du poison. Il y en a qui réalisent qu'il y a danger parce qu'ils ont vu qu'ils mangeaient de la viande rouge. Seigneur, c'est là que ça, ce n'est pas normal. Tu as mangé la viande. Normalement, tu mangeais le couscous, le haricot, tout ça, c'était toujours la même chose. On se disait que t'as embouté. Maintenant, quand vous parlez de guérison divine, les gens pensent qu'on est venu donner un cours théorique, je ne sais pas pour la guérison divine. Non, c'est de ça dont on veut parler avec des solutions opérationnelles, structurées, cohérentes, avec les références bibliques, etc., etc. Il est parti normal. Il n'est pas normal, par exemple, pour une personne normale de penser à ce sujet. Même les animaux ont l'esprit de survie. Quand toi, un être humain, qui est de très loin plus valable qu'un animal, tu penses à la mort, tu crois que c'est bien de toi. Il y a quelqu'un qui est en train de te pousser à la mort. La majeure partie des systèmes pour voir sur la planète, elles sont organisées par les anges des ténèbres ou des choses qui y ressemblent. Donc, c'est encore là des gens qui ont besoin de guérison divine. Il faut comprendre les jeux et les enjeux. Le véritable enjeu, c'est votre épanouissement. Le véritable enjeu, c'est votre vie. Le véritable enjeu, c'est votre capacité à exister. Si vous voulez vivre comme un arbre qui n'a pas beaucoup de pouvoir, qui est seulement là, comment vous allez décider de mourir? Non. Vous devez être capable d'influencer votre environnement, de prendre le pouvoir sur votre environnement, d'avoir droit à votre héritage. Il n'y a que dans un pays où les gens sont spirituellement malades. Vous entendez des réflexions du genre, on vous accompagne, non? Donc, il y en a qui ont pour mission sur terre, accompagner les autres. On vous regarde, non? Donc, il y a, toi tu fais sa vie, lui, sa mission dans sa vie, c'est de regarder, non? Ah, il a fait ça encore dans ma vie, chouette! Cool! J'ai encore d'appuyer un bouton dans ma vie. Et les années passent. Si vous n'avez pas d'éducation spirituelle, le diable vous anéantit et vous êtes le dernier informé. J'ai pris une image ici, je vais la reprendre aujourd'hui pour les uns et les autres pour que ça éveille votre esprit. Rappelez-vous de la manière dont les carençons attaquent le bois. Les carençons attaquent le bois à l'intérieur, c'est-à-dire tout allait bien. La vie de beaucoup d'êtres humains sur terre. Si ça peut vous consoler, des milliards est comparable au bois qui a été attaqué par les charançons. En surface, tout allait bien, mais à l'intérieur, tout en train d'être grigé, anéanti. Quand on parle de guérison divine, il s'agit de sauver la vie, il s'agit du salut, il s'agit de votre bonheur, de votre bien-être, de votre épanouissement. Et seul un technicien, seul un praticien pour vous montrer les yeux et les enjeux autour de cette affaire. Si vous n'avez pas droit à la guérison divine, si vous ne comprenez pas les enjeux de la guérison divine, vous n'avez pas de vie. Et le diable est tellement vicieux qu'il peut laisser la surface bien au point où tout, tu crois que tout va bien. Tu vas bien à l'école, hein. Parfois, il ne va pas bloquer là-bas. Il te laisse aller faire un diplôme. En te donnant l'essentiel de ce qu'il va faire de toi un homme ou une femme. Il a déjà bouffé tout ça. Dans le futur, il a déjà volé ça dans le passé et il est en train de prendre ça dans le présent. Avec son accord, bien entendu. Puisque tu ne sais pas comment tu te contamines ou bien comment tu es attaqué, tu donnes ton accord. Quelqu'un qui sait que les fous du lit sont dangereux ne va pas plonger dans une affaire dans le sommeil. Même dans le sommeil, tu vas dire, hé, viens là. Je pars. Ou bien, non, je ne veux pas. Les expériences que nous tous avons connues pour ceux qui ont commencé à grandir. Tu es là en train de chercher les vraies solutions. Tu vois dans les rêves. Et là, il y en a encore moulé de je ne sais pas quoi qui apparaît là tant d'âmes venant de nulle part. Toi, tu dis, j'ai trouvé ma paquette là-bas. C'est le piège. Dieu ne veut pas mettre à sa femme qui te promet les tenues sexy. Je n'ai jamais vu Dieu faire ça. Quelqu'un te promet une femme, il te la montre méga canon sexy, danger, alors on t'a dit, il est marié un peu là. Il a eu ça et il dit que Dieu a retrouvé la femme. Il était canon. Il lui a dit Satan. ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de montrer les formes d'une femme pour te dire que c'est ta femme, puisque Dieu ne te montre pas les formes, puisque l'apparence ne compte pas pour lui. Attendez. Proverbe, parce que ça, c'est sûr que ça me balance ça. Proverbe 31. Parce que moi, quand vous dites des choses comme ça, sans vous donner les références, vous allez dire que l'homme là, il parle seulement, mais ah, est-ce que c'est biblique? Il y a d'abord un passage que je ne retrouve pas. Quel est le roi que David a remplacé? Il s'appelait comment? Quel est le prophète à qui Dieu a allé demander, a dit à ce roi-là que de toute façon, Dieu t'a résisté? C'était qui? Bien. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Je ne retrouve pas le passage dans ma tête, mais Dieu dit ceci à Samuel. Ne te fie pas à sa taille, je l'ai déjà résisté. Je ne t'intéresse pas à l'apparence. Mais il y a mieux quand même. Il y a mieux quand même. Dans Proverbe 31, il y a quelque chose que je cherche. Voilà. Proverbe 31, le verset 30 dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. On n'a pas écrit ici que la femme qui a les plus de formes qu'un homme, c'est celle que Dieu va regarder. C'est là que je vais me passer par là. La guérison divine intervient aussi sur des compartiments qui sont liés à la paix dans la famille, dans le foyer. Quand les anges des ténèbres organisent les vis-à-vis dans les familles, attaquent le père, attaquent la mère, attaquent les enfants, vous engueulez, vous êtes manipulés, exactement comme les marionnettes sont manipulés. Je ne parle pas de manipulation au figuré, mais au bon. Ce n'est pas comme à raconter. Et une chose que j'ignorais, c'est ce que je dis en 2015. En fin 2015, j'ai vu plusieurs situations où une personne, en tant que l'autre personne dans la famille, dans la maison, l'a appelé pour lui dire une mauvaise parole. En plein jour, pas la nuit. C'est les gens des ténèbres qui font ça. Tu entends ta femme, ton frère, ta soeur, ton mari t'a insulté pour dire une mauvaise parole. Va vérifier si c'est lui. Va vérifier. Parce que si tu réponds en aboyant comme le chien ou en caquetant comme la poule, tu tombes dans un piège alors que tu pouvais le contourner. Deux possibilités. Soit il y a manipulation à travers le fait que les gens des ténèbres ont la capacité à emprunter la voix d'une personne pour créer la dynamique dans une famille, dans un milieu. Soit il y a manipulation parce qu'on lui a envoyé une mauvaise pensée, il s'est sorti de sa bouche, il n'a pas tamisé ça. Je vous parle de la pratique. Si tu demandes, si quelqu'un t'insulte, tu viens lui demander que c'est toi qui m'as dit un imbécile tout à l'heure. Il est possible que le Dieu Père le saisisse en disant que c'est toi. Et qu'il ne repasse pas la même connerie. Donc, la guérison divine intervient à des niveaux extraordinaires. Elle intervient pour les maladies spirituelles, maladies pour lesquelles on fait des examens, on ne voit rien. Parce que de toute façon, c'est l'esprit qui a été atteint. Elle intervient pour les maladies spirituelles matérielles. Maladies pour lesquelles c'est l'esprit qui a atteint, la manifestation est physique, et il se trouve que il y a ça, pour régler. Il se trouve que ce n'est pas à la source que le problème a été résolu, mais en surface, parce que le corps physique n'est qu'un vêtement. Vous connaissez le passage 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Les maladies spirituelles sont capables d'intervenir même là où le médecin est compétent, à savoir la maladie est matérielle, la source est matérielle, la manifestation est matérielle, mais encore Dieu intervient. Donc quand on veut parler de guérison divine aujourd'hui, on va en parler en deux temps, aujourd'hui et demain, parce que l'enseignement est long. Je ne veux pas le faire en un trait aujourd'hui. On risque de commencer à réveiller les voisins. Ils vont dire que c'est vendredi, ils viennent du travail. Donc quand on veut parler de guérison divine, vous devez prendre conscience du fait que s'il s'agit de vos vies, qui sont à guérir, à travers le processus pur de guérison, face à une pathologie, ou à travers le processus de guérison, face à un cas de possession ou d'envoûtement. Parce qu'ici, on intègre les délivrances dans la guérison. J'espère que cette mise en bouche qu'on appelle en études postdoctorales prolégomènes. Prolégomènes. Vous aussi, il faut augmenter le niveau, ça ne paraît pas des temps éducatifs. Donc, prologos, prolégomènes, c'est un discours qu'on tient avant de dérouler une science. Ils ont dit que Dieu est passé ou quoi. On leur a dit que j'étais major des majors dans une école postdoctorale. Ils ne veulent pas faire part, même un peu de son attente postdoctorale. Donc c'était les prolégomènes. C'était un discours qu'on tient avant de dérouler une science. Que l'on ne vous dise plus jamais qu'on croit en Dieu et on ne sait pas faire science. Il manque, le plus grand scientifique, c'est Dieu. Donc même là-bas, on les passe. Donc, nous allons parler de guérison divine. On est en beaucoup de références historiques et bibliques. Mais je voudrais que les uns et les autres réalisent la gravité du sujet, la profondeur de celui-ci. Et je vais dire l'extrême urgence à prendre conscience de votre position en tant qu'acteur. Chacun d'entre vous peut opérer des guérisons divines. Lorsque nous avons été enseignés il y a 3 ou 4 semaines pour dire que chacun d'entre vous peut demander les dons spirituels au Seigneur, les gens commençaient à me regarder. En fait, ce n'était pas compliqué de savoir ce qu'ils pensaient, me regarder en disant que rien ne fait. C'est vrai. Moi aussi, pour avoir un don spirituel, je dis aujourd'hui que chacun d'entre vous peut opérer une guérison divine par l'Esprit Saint. Chacun d'entre vous. Pourquoi? Les principes de la guérison divine, on va les enseigner ici. Vous allez voir qu'il y a dedans le fait d'avoir reçu Jésus, de l'avoir accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Le fait de lui faire confiance. Le fait de persévérer dans la marche avec Dieu. Par simple principe, logique d'intercession ou de prière, c'est pour vous demander au Père que vous l'apporte. On a déjà eu plein de témoignages ici, des gens qui ont dit que mon enfant était malade, j'ai prié, il est guéri. Il n'a pas eu besoin d'appeler l'envoyé. Qu'est-ce que vous croyez? C'est la guérison divine. Tout est d'ailleurs à les niveaux. On peut opérer la guérison divine sans avoir des dons de guérison. Parce que ça, c'est d'autres niveaux. Même dans les dons et guérison, il y a un niveau d'onction. Ça veut dire que l'onction a la capacité à revêtir Dieu. Ça, c'est un autre affaire. Ne laissez pas les gens dire à côté de vous parce qu'il a réussi à prier, puis il a prié à produire, etc. Moi, je suis plein de l'esprit Saint-Dieu, que. Erreur. Son ordinateur m'a écrit erreur, parce que erreur. Être plein de l'esprit Saint-Dieu, c'est une autre affaire. Mais chacun peut opérer à la raison de vie grâce à l'esprit Saint, grâce à la foi, la confiance qu'il a en Dieu, la confiance qu'il a que Dieu marche avec lui, et la ferme assurance qu'il a. Qui espère en Dieu. Vous savez, pour rester dans la science, nous sommes dans la pratique. C'est-à-dire la pratique des choses spirituelles. J'ai été inquiété en semaine par une chose. J'ai découvert, parce que bon, vous savez, moi je sens encore mon école doucement. Ben. S'il y a des gens qui ne savent pas que l'Esprit Saint existe, j'étais scandalisé.
Le prochain qui est
Dieu disponible, multifonction, multidimensionnel, omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu le dis comment sans lui?
Ah non, comment il y a des prochains qui n'existent pas? Agnande.
Je dis que c'est chaud, hein? Mais il ne peut pas t'en sortir. On va faire un enseignement ici à la doctrine de l'Esprit Saint. Pour vous compreniez comment ça évolue. On a déjà fait un enseignement ici sur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, on a beaucoup de choses à vous enseigner par rapport à l'Esprit Saint. La guérison divine est disponible grâce à l'Esprit Saint. Et que vous sentez que nous ne sommes ici de la terre ici, mais on n'est pas dans le même univers. Hein. Vraiment. On n'est pas dans le même univers. Ça veut dire que certaines choses qu'on pouvait dire, il y a des gens qui ont regardé en vous disant quel est le malade mental là qui parle. Il dit, est-ce que c'est l'esprit de quoi? De qui? C'est même quoi? Ça sert à quoi? Que le Seigneur vous remplisse aujourd'hui, même parce que vous êtes venus.
Amen.
Et qu'il se manifeste pleinement dans vos vies parce que vous êtes venus.
Amen.
Qu'il agisse de façon à ce que dans vos familles, on sente que vous avez reçu l'Esprit Saint.
Amen.
Dans vos lieux de service, on sente que vous avez reçu l'Esprit Saint.
Amen.
Parlons donc de la guérison divine. Version enseignement. On est encore dans les illustrations au niveau des prolégomènes. Il faudrait déjà regarder qu'il y a des dispositions, on va dire, d'emprise, la rédemption de Dieu, qui sont liées à la guérison divine. Le problème de la maladie est lié au problème du péché, à la base. Vraiment, quand on regarde la parole, la maladie est liée au péché. Ça, c'est la compréhension spirituelle de la question. La maladie est liée au péché. Ça, c'est la première interprétation, la première compréhension, la première intellection, la première appropriation que l'on doit se faire depuis l'angle spirituel. Le problème de la maladie est lié au problème du péché et de la mort, qui ne sont autres que les conséquences de la chute. Vous savez que la médecine moderne considère la maladie au niveau physiologique, c'est-à-dire physique, ou encore psychosomatique, qui sont les grands mots pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Psychosomatique, c'est-à-dire au niveau du mental et du stomac, c'est-à-dire le corps physique. Tandis que la médecine moderne voit la maladie à ce niveau. La Bible, elle, soutient que la problématique principale est de nature spirituelle. Donc, le péché, d'abord, qui a affecté notre statut spirituel, initial et physique. Vous n'avez qu'à prendre Jean 5, 5 et 14. Jean 5, verset 5 et le verset 14. Vous voyez d'abord le péché qui a affecté notre statut spirituel. Ensuite, il y a Satan qui est venu nuire. Parmi les causes de la maladie. Quelqu'un a déjà dans 5 ans et le verset 14 à la suite.
Jean 5, au verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, vois-tu, tu as été guéri. Ne pèse plus, de peur qu'il est arrivé quelque chose de plus.
Le sous-entendu dans, alléluia, le sous-entendu dans ce que Jésus dit, ne pèse plus de peur qu'il n'arrive quelque chose de pire. C'est-à-dire que c'est le péché qui t'a rendu malade. J'ai enlevé parce que je suis Dieu. Ne pèse plus parce que si tu fais, tu vas retomber malade et ça fait être pire que la précédente fois. Donc c'est un élément spirituel qu'il faut cueillir et qu'il faut garder à l'esprit. Deuxième dimension, c'est Satan. Regardez un peu Marc 9, le verset 17. Marc 9, le verset 17. Le verset 20, le verset 21. Marc 9, verset 17, verset 20, verset 27, 25. Et Luc 13, 11, qui parle de Satan comme cause de la maladie. Marc 9, le verset 17, le verset 20. Verset 25, Luc 13, 11. Quoi, allez vite, tout un passage, on y va.
Marc 9, verset 17. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé de l'esprit muet. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant de Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en lutinant. Verset 25. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, es-tu muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et lui en rentre plus. Amen.
La possession est un problème de maladie, puisque de toute façon, ça rend malade la personne souffre. Et elle vit des cauchemars de grandeur réelle, du monde visible au monde, du temps de veille au temps de sommeil. c'est la même raison que vous aurez expliqué un certain nombre de choses. Non, pas. Si on tient à la disposition redemptrice que Dieu a établie face à la suite de l'homme, afin de remédier au péché, Dieu accorde son pardon. Ça connaît ce que Dieu fait. Il accorde son pardon. Pour contrer la mort, Dieu a donné la résurrection et la vie éternelle. Pour contrer la maladie, Dieu a donné la guérison. Regardez les réactions de Dieu face à la suite de l'homme. Face au péché, il accorde le pardon. Face à la mort, il accorde la résurrection et la vie éternelle. Face à la maladie, il accorde la guérison. Vous pouvez voir ça dans le psaume 103, le verset 1 à 5, Luc 4, verset 18, Luc 5, verset 17 à 26. Psaume 103, le verset 1 à 5, Luc 4, verset 18, Luc 5, le verset 17 à 26.
Psaume 103, verset 1 à 5. De David, mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et ne vit aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités, qui guérit toutes ses maladies. C'est lui qui délivre sa vie de la fosse, qui se couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie du bien sa vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Amen. Est-ce qu'on a lu 4 minutes et lu 5 17 à 26? Celui-ci a pu enchaîner.
Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen.
Amen. Qui parle? Jésus-Christ. Et il reprend un passage qui est un passage que Jésus a annoncé 600 ans avant. C'est l'un des éléments les plus spectaculaires qui montre que Jésus était un prophète. C'est Dieu qui est d'ailleurs un intelligent, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ, qui va arriver 600 ans après lui. C'est l'Esprit de Dieu qui annonce l'arrivée de Jésus-Christ. On fera un enseignement ici de Jésus-Christ, c'est lui qui est dans l'Ancien Testament. Vous allez être émerveillés. On retrouve clairement Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et celles des personnes qui ne connaissent pas la parole vous racontent que l'Ancien Testament est obsolète, ils connaissent la parole. Donc, si vous prenez un livre, la plus grosse partie dit que non, c'est obsolète. On t'a vendu. Tu as lu la parole pour comprendre ce que ça veut dire. L'Ancien Testament a des vérités cachées et le Nouveau Testament a des vérités dévoilées. C'est le même Dieu qui parle. Quand Jésus-Christ dit que avant Abraham, je suis, qui est en train de parler? C'est Dieu. Quand Jésus-Christ dit, Moïse a accepté que vous refusiez au par rapport de la dureté de votre cœur, c'est Dieu qui avait accordé et c'est lui qui est en face là. Quand vous regardez le langage que Jésus-Christ tient, comparativement aux prophètes avant, on a fait cet enseignement. On a dit que les prophètes avaient l'habitude de dire, la parole m'a été révélée en un mot. Ou bien, ainsi parle l'Éternel. Jésus-Christ arrive et vous dit, moi je vous dis. Moi je vous dis, c'est-à-dire moi Dieu. Qui suis-je devant vous? Je vous dis. Comment quelqu'un peut dire que l'Ancien Testament est obsolète? Il a bien lu, il a quand même appris quelque part. Quand tu dis à quelqu'un que l'Ancien Testament dans le Lévitique dit qu'il ne faut pas faire tel, tu dis, non, ça c'est long, c'est l'être aussi. C'était avant. Le temps l'a changé. On dit là-bas qu'un homme ne peut pas avoir de rapport avec un animal comme si c'était un autre homme. C'est une confusion. On dit là-bas, c'est écrit, que tu ne peux pas toucher une femme en période de menstrue. On dit qu'un homme ne peut pas aller avec un homme. C'est une abomination. Tu dis que non, la loi là est obsolète. Maintenant, là, une femme peut aller à une femme, un homme peut aller à une femme, un homme peut aller à un homme, et puis on peut même adopter les enfants plus tard. Mais la loi est là.
c'est de la confusion la plus incroyable que d'ignorer la loi. Je dis que non. On dit que mais tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Même la loi, c'est quand ça vient faire envie, quelqu'un a sauté, tu le dis, ton père. Mais ta mère fait partie des femmes de ton père. Tu m'as cherché quoi là-bas? Bien accepté la polygamie par le principe qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Bon, il est certaine chose qui permet quand même. Mais il n'a pas dit que comme il a accepté la polygamie, les enfants qui ont grandi vivent là-bas ont commencé à accepter dans le marigot de leur père. C'est écrit dans la parole. Ou bien que certaines femmes ont commencé à chercher le mari de leur sœur.
C'est qu'il y a une série de lois qui sont claires. On n'a pas besoin d'interpréter ça.
Quelqu'un dit que non, c'est obsolète. Je veux que ça apporte des corrections sur un certain nombre de choses. La loi du talion est là remplacée par le principe de l'amour. Mais la loi du talon reste valable. Si tu vas appliquer la loi du talon, Dieu l'applique sur toi. Il te laisse appliquer, mais il applique aussi sur toi. Parce que la parole dit que la mesure que tu utiliseras sur les autres, c'est elle qu'on utilisera pour toi-même. Il vient me dire que l'Ancien Testament est obsolète. Il connaît sa parole. D'autres disent que la Bible, c'est un livre d'histoire. Et quand tu n'as pas la parole, tu les laisses dire les choses comme ça. Tu les laisses brûler avec la parole. Tu tentes de te damner immédiatement. Parce que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, de lumière, de feu, de puissance, d'autorité.
Amen. Amen.
Donc vraiment, faites attention. Donc, Dieu a des réponses qu'il a apportées. Est-ce qu'on a lu ensemble Luc 5, le 17 à 26? Allons-y. Luc 5, le verset 17 à 26.
Luc 5, le verset 17 à 26. Or, un jour, il était en train d'enseigner. Il y avait dans la puissance. Il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Sur un des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé, il s'est à le faire entrer et à le placer devant lui. Et comme, à cause de la foule, il ne voyait pas par où le faire entrer, il montait sur le toit et, au travers des fils, il le fit descendre avec sa civière en plein milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. L'esprit de les pharisiens se mit à raisonner. Quel est cet homme qui dit, des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus connaissant leur raisonnement, leur rétorqua, pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire que peut-être sont pardonnés ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner le péché, et il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. À l'instant, celui qui se leva devant lui, devant eux, il prit ce qui lui servait de lui et il partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. La stupeur les saisit tous et il rendait gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires.
Amen. Vous allez garder comme référence dans la même lignée Jacques 5, le verset 14 à 15. Jacques 5, le verset 14 à 15. C'est toujours parfois la raison. Ainsi, pendant le séjour de Jésus sur terre, les trois aspects de son ministère ont été l'enseignement,
de la parole de Dieu, la prédication sur la repentance, c'est-à-dire le problème du péché, et sur les bénédictions du royaume de Dieu, c'est-à-dire la vie, ainsi que la guérison de toute maladie, de toute infirmité parmi le peuple. Pour avoir un appui par rapport à ça, vous avez Matthieu 4, versets 23 à 24. Entrons dans la révélation concernant la volonté de Dieu. En fait, dans l'Écriture, quand on parle de l'Écriture, on parle de la Bible, la volonté de Dieu concernant la guérison est révélée de quatre façons. De quatre façons. La déclaration de Dieu dans Exode, Exode 15, le verset 26, je parais trouver là, on va la lire pendant que je suis en train de développer. Dieu a promis d'apporter la santé et la guérison à son peuple, si tant est que ce dernier demeure fidèle à son alliance et à ses commandements. Et cette déclaration comporte deux aspects. Lisez d'abord Exode 15, verset 26, et je vais expliquer les deux aspects de cette déclaration.
Exode 15, verset 26, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai de plus de maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel, qui te guérit. Amen.
Les deux aspects de cette déclaration de Dieu est laquelle? Sont lesquels? Je suis l'Éternel qui te guérit, c'est-à-dire je suis ton rédempteur. Je ne te frapperai d'aucune maladie, c'est-à-dire comme jugement, comme j'ai frappé les Égyptiens. Dieu peut juger, mais il est aussi le rédempteur. Il est le sauveur. Il est celui qui peut racheter. J'ai entendu un de mes fils rappeler ça l'autre jour, parce qu'on a reçu un enseignement en disant aux gens, car ce n'est pas la démocratie, c'est le libre avis, ce n'est pas la même chose. Dans la démocratie, vous avez des ordres que vous organisez dans tous les sens. Vous croyez qu'on peut avoir 5 avis différents sur le même sujet, ou même 10 avis différents, c'est la démocratie. Non. Avec Dieu, il n'y a que deux routes. Celle de Dieu ou celle du diable. Il te suggère fortement de choisir la tienne. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans l'obéissance. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de l'obéissance et ne comprennent même pas ce principe est actif. Il est vivant. Tu obéis, il te guérit. Il te rachète. Il te restaure. Il te lève. Il te protège. Il te sort du danger. Il te nourrit. Il t'enrichit. Tu n'obéis pas, il te laisse, dans ton égarement, obtenir les fruits de tes choix. Tant que tu n'as pas compris qu'il faut te repentir. C'est peut-être une parenthèse pour que vous voyez l'esprit de guérison. Dans l'Ancien Testament, Dieu a continué d'être le médecin de son peuple. Tant que ce dernier cherchait ta face avec ses œuvres, qu'il obéissait à ta parole. Si vous prenez 2 Rois 20, le verset 5, vous allez voir cette référence. Ah, il a lu le psaume 103, le verset 3. Prenons 2 Rois 20, le verset 5. La guérison divine existe depuis l'Ancien Testament. Elle est visible et visible.
2 Rois 20, verset 5. Retour, il dit à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen.
Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Si vous remontez 2 versets plus tôt, vous allez peut-être comprendre. À qui Dieu parle-t-il concernant Ézéchias? Il est en train de parler au prophète Ésaïe. Il a envoyé Ésaïe dire à Ézéchias que Ézéchias était un roi établi par Dieu, mais qu'il a dévié à un moment. Et Dieu envoie son prophète dire, va lui dire de donner les ordres dans sa maison, il va mourir. Le temps qu'Ézéchias, Ésaïe sorte du palais, Ézéchias se tourne vers le mur et se met à pleurer, en disant à Dieu que rappelle-toi le moment où j'ai été docile, où j'ai servi selon tes voies. Rappelle-toi. dans ce moment, cet instant de repentance sincère. Le temps que Daïs porte, Dieu lui parle encore, lui dit que rentre le voir, dis-lui que notre maille va guérir, mais je lui donne 15 années supplémentaires de vie. Il y a un enseignement multiple dans cette affaire. Et je vous dis ça vraiment en tant que praticien. Beaucoup d'êtres humains, quand ils prêchent, puis Dieu. Erreur. Tu lui. Toi, là où? Tu m'as tout le temps dit. Vous ne comprenez pas que l'affaire là n'a jamais marché. Quand tu as prêché, tu pries, ça aggrave toujours ta situation. Toujours! Adam et Ève ont péché, non. Ils entendent Dieu arriver. Ils savent ce papier. Ils se plaignent de qui? Où? Il a tous les scanners que l'homme n'a jamais pensé construire. En plus de tout ce que l'homme a pensé construire, ils n'ont même pas encore atteint le niveau. Tu te plaignes de Dieu où? Comment? Ils sont de tes pensées, les reins, les cœurs, tout ça. Bon. Tu te plaignes où? C'est bon. Je vous donne un conseil pratique. Si vraiment vous cherchez Dieu, vous allez péché, courez. Courez vite demander pardon. Et signer un nouveau contrat. Mais, et donc, vous êtes, j'ai dit signer un nouveau contrat. Repentance, conversion, et vous venez même tellement mieux, mettez pénitence sur ça. Sauf que je vous préviens, ta parole dit encore que l'obéissance vaut mieux que la pénitence. Donc, il vous attend prioritairement dans l'obéissance. Mais si vous avez eu à déraper, contrairement et contrairement, vous découvrez que quand vous avez déraper, allez vite demander pardon. Au lieu de dire, le temps que vous passez la pluie, ça aggrave votre situation. L'ennemi peut venir vous attraper une fois vous mourrez. Et qui ronde toujours comme un lion, qui cherche une proie. Le diable est très, très, très vif. Dans le monde de l'univers, ça se passe très, très vite. Enlevez ça de vos comportements, que quelqu'un réalise qu'il a péché. Il dit, oh non, c'est bon, j'ai péché. On fait quoi? C'est cool. Da, da, da. Attendons quand Dieu va passer à me rappeler. En ce temps, c'est pas grave, j'ai péché. Non, il y a même quoi? Personne ne peut avoir de guérison s'il ne sait pas confesser ses péchés devant Dieu. L'une des choses qui a bloqué beaucoup de guérison, même dans ce ministère, c'est les gens qui ne savent pas demander pardon à Dieu. Soit l'orgueil, soit une ignorance chronique de la parole et des principes de la marche à Dieu. Ézéchias a eu le bon réflexe. Puisque Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, partout. Il n'avait pas besoin d'Esaïe pour pleurer. Esaïe était dans le côté, Ézéchias est resté pleurer. Il regardait le mur en parlant à Dieu. Il dit que tant qu'Esaïe sorte, Dieu l'a rattrapé en lui disant que dis-lui, rentre lui dit, que j'ai vu ses pleurs. J'ai entendu ce qu'il a dit. Dis-lui qu'il va guérir. Mais je lui donne 15 années de vie supplémentaire. Si Ézéchias était resté, il dit que, ok, on me dit que je veux, il fait un autre. Oh, c'est comment? Il serait mort. 15 ans plus tôt. Quand vous lisez la parole, il faut toujours voir les principes assis dedans. Ta vie. Les règles dedans. Mais il y en a qui sont dans le péché. Ils ne veulent pas lutter. Car, c'est plus fort. Comme le frère m'a dit, ah, dis donc, quand il y a une parole de fornication là, je ne vais pas le souffrir beaucoup. Tu vas te faire une crédit là, il aura plus d'un pouvoir. On est fait dire que ouais, mais aide-moi à sortir là, c'est compliqué là, c'est la soeur moi de là. Si tu veux un demain éteigner un peu, tu vas souffrir demain comme ça, c'est quand même on commençait à commencer que m'arrête. Mais même un système d'alerte quelque part à moi, tu veux la volonté de lutter contre ça. Quelqu'un dit ça, Dieu va aller quoi pour quoi. Il a 25 ans passé. Je suis un adulte vacciné. Il dit qu'il ne faut pas faire. Il croit pour quoi. Ça t'enfonce.
Dieu n'attend pas prioritairement que vous soyez parfait. Il attend prioritairement que vous ayez un cœur qui se préoccupe à lui plaire. Cette préoccupation quotidienne, constante, que vous avez à plaire à Dieu, est une preuve d'amour. Et le dit là, cherche-moi, c'est les écoles qui commencent à voir ce que tu veux. Ah, d'accord. Tu veux au moins sortir de là. Là, il va passer à une étape. Il va mettre ça en toi. Tu vas sentir que tu ne veux plus. Mais on a des gens qui ont lutté contre la cigarette pendant des années. Le jour où tu montres à Dieu, ou bien quand Dieu dit que c'est fini, tant pis, si tu as attendu que quand c'est lui qui dit, parce que ça peut être très, très loin. Il vaut mieux que toi, tu cherches d'abord, comme ça, c'est. Tu réalises seulement que la cigarette te déboute. Le dégoût. Il y en a qui sont abonnés aux prostituées. J'ai un abonnement préférentiel, les coûts différentiels et tout. Ils ont.
Mais, tu ne vois pas que tu es en train de ramasser les bêtises dedans, que même la médecine ne peut pas comprendre. Ta parole dit que ne te lis pas à prostituer parce que tu seras un avec elle. C'est pas l'acteur.
Il faut connaître la parole. Hein. Non, maintenant, on ne connaît pas, on est mal barré.
Mais sors de là. J'ai eu plein d'étudiants et étudiants qui se prostituent et ils ne veulent pas lutter contre ça. Leur argument c'est que, ah, on va faire comment?
Ça reste à quoi on fait, non? On gère l'école, on paye les taxes, etc.
Sors de là, parce que la parole demande de ne pas se confier à l'homme. Jérémie 17, le verset 5 a dit, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Sors d'abord de là. Fais confiance à Dieu. Montre-lui que tu le cherches. Et tu vas envoyer là te trouver des solutions plus simples. Repends-toi. Comment les gens ne veulent pas se repentir et veulent la guérison? Mais, c'est pas possible. C'est comme ça que vous faites les omelettes sans casser les œufs. Mais il y en a un qui sont plus doués. Il plante le bananier quelque part et il dit que les oranges vont sortir du bananier là. Lui, il attend les oranges sur le bananier. C'est comment? Oh, on sort de ce qu'on a semé. Parce qu'il sème le péché, tu es attaché au péché, tu dis que toi, tu vas avoir les fruits du paradis de l'islam. Ça va sortir ici et nulle part ailleurs. Mais les gens ne vont pas les tiens. Il faut être lucide de comprendre ce principe parce que quand on parle de guérison, beaucoup n'ont pas compris la complexité des paramètres autour. Mais il s'agit de ça. Il s'agit de ça. Il faut guérir du péché. Puisque la source de la maladie, c'est le péché. Mais quand ça tape au péché, il embrasse le péché avec les mains, il embrasse le péché avec les pieds, il dit que je ne mourrai pas ici. Le tour l'a attaché au péché comme ça. On ne peut pas être heureux. Jésus m'a fait tomber, il y a un Dieu miséricordieux. Laisse-la, Jésus m'a fait tomber, on est que l'acte d'avoir toi-même.
Ils ont un faux enterrement et ils diront que Jésus sauve, parce que enterrement sauvé. Parce qu'il ne faut plus se battre, on ne va pas combattre le péché. Jésus a gagné la victoire sur la mort et la victoire sur Satan. Donc, on a seulement à vivre notre bout. On est sous la grâce. Zéro suivant. Zéro macabo.
On dit que résister au péché, regarde comment elle s'habille ici dehors, c'est devenu autre chose.
Comment on souffre avec nos yeux là qui n'ont pas le volant.
Tu pries bien, l'Esprit Saint avec toi. Tu es là dans la joie, là là, tout va bien. Dès que tu arrives en route, tanda. Les films recommencent. Laura en plein jour. Ça, c'est toi. Tu peux t'exclamer en une journée au moins 50 fois que Père, pardonne-lui. Père, pardonne-lui. Père, pardonne-lui. La formule là, le disque, le disque là, c'est facile, tu commences à dire ça. C'est même toi. C'est même toi. C'est même toi. C'est toi. C'est toi. Il y a des lignes de famille. Il y a des lignes de. Les gens marchent comme ça. C'est comme ça que les trucs d'imbilicité viennent s'approcher. C'est que les trucs d'imbilicité, c'est
l'État possède plus de possessions bien se greffer. Dès que tu as plus de possessions bien se greffer, plus de séduction, ce sont des esprits. Et qui savent cohabiter? Impudicité, prostitution, séduction. Les trois sont les guides, ta tête vient dans ta vie. Ah, et ils te font la paix. C'est toi. Il y en a qui ont les guides, je ne sais pas dire parce que ça voulait dire que les gens ont les pieds dans le pantalon. C'est-à-dire. D'autres les ministres. Et il faut me t'amener que tu la moto. Et mes yeux sont devant. Vous voulez que je fasse comment quand je marche en route? Mais la moto, on me connaît. Faut que quand je monte, je mets le pied. Qu'est-ce qui ne va pas? Une autre variante là que je ne comprends pas. Ça c'est un autre niveau, ça dépasse l'entendement. On met une robe transparente. Mais, j'ai grandi, j'ai déjà presque 40 ans. À mon âge, j'ai quand même des choses. C'est depuis 2 ou 3 ans que j'ai vu que je vois que la doublure s'arrête ici au milieu des fesses. Depuis, je n'ai jamais vu toutes ces choses. Depuis que j'ai grandi, j'ai vu le silence arrêtant petit jusqu'à un certain âge, je savais que la doublure va jusqu'à un autre niveau. Les nouvelles doublures des femmes s'arrêtent au milieu des têtes. Et pour remplacer la doublure, on met le cycliste en bas. Quel mauvais goût esthétique, je ne sais pas ce que c'est ça. D'abord, c'est laid. C'est inesthétique, c'est incohérent, c'est affreux. Je vous dis la vérité, parce que quand il ne faut plus le péché. Dès qu'une femme s'habille mal, l'esprit de séduction vient se greffer. Celui d'impudicité vient. Et l'autre de prostitution, les trois, ils sont presque toujours ensemble pour attaquer. Et ils chargent bien. Résultat, en peu importe les arguments naturels qu'à un qui a rien mettre en valeur. Sur la moto, là votre frère ne va pas commenter parce que le nombre manque. Dans les tapis, je ne sais pas comment nous on fait. C'est là dans la paix de l'Esprit Saint. Heureux d'avoir chanté aujourd'hui, d'avoir bien prié. Dès que quelqu'un entre dans les tapis, c'est un bang. C'est des salons. Où est-ce? Mais un jour, vous allez t'entendre comme un gifle, parce que quelqu'un entre dans les tapis, c'est un. C'est moi. J'étais jeune enseignant il y a 11 ans. J'avais une enfant qui faisait poser tout. Comment j'étais jeune? Vous savez, quand on est jeune, la fois je suis imposé. Mais imaginez à quoi je ressemblais il y a 11 ans. Il y a 12 ans, j'ai fini l'école, après j'ai fait de moi et je commence à enseigner. Mais que
parce qu'il y a besoin d'un dévot, tout pas possible dans la vie. Moi, je confondais toujours l'enfant à la boîte de nuit. Elle se mettait en dessous collant.
Et elle venait toujours en retard. Vous savez qu'en France, c'est très grave. Elle est étudiante ici, ça. Elle venait toujours avec ça pour s'ouvrir le cou. L'antique est un temps exprès. Des démonstrations fusent dans tous les temps. On est déjà dans la joie de la science. C'est là où quelqu'un entre. Le temps s'arrête. Elle a mis, d'abord, sur l'équipé, il y a du monde au bâton. En bas, c'est le collant.
Le genre, là, tu ne peux pas aller loin. Je viens de passer dans ta vie.
Et tu finis au présent. Ton futur est déjà verrouillé l'année là. Tu attires les démons. Tu attires les anges de ténèbres. Tu attires les bandits. Tu attires les péchés. Tu attires les sorciers. Je me dis, c'est toi qui fais les appels de balle. Oui. C'est simple. Il est écrit dans la parole. Mon peuple souffre cette faute de poser 4 versets 6. Si les femmes, je dis que rien que le petit service, ça fait si les femmes ont leur enseigné le vêtement, la symbolique du vêtement, on aurait une société qui a moins de péchés.
comme le diable a compris que la bâche est une bonne ressource pour lui.
Oh. Je n'ai pas prêté pour qu'on garde ça dans le bac. Si ta soeur est habillée mal comme ça, ta fille parle de lui, tu pries même sur elle, que l'esprit d'infidélité sort de ce corps. Esprit de prostitution sort de ce corps. Esprit de séduction sort de ce corps. Elle a abusé et proprement possédé. Je ne sais même pas si tu m'as pensé. C'est pas une maman de 50 ans qui fait les mêmes choses. On pense alors ici, qui m'a pensé, qui? Tu regardes comment une femme s'habille. D'abord quand tu ne la vois pas derrière, tu dis, regardez-moi alors les jeunes filles de Jésus. Quand elle se retourne, tu vas faire une maman. Athéa! Le quoi? Ok, résultat, c'est quand elle attend encore la dose. C'est pas ça que je disais, vous ne savez pas. Vous savez, notre vie est plus difficile que celle des ministères et des prêtres. Parce que quoi? Nous traitons des problèmes cliniques. Nous traitons de l'intimité des gens. Maintenant, nous traitons de ce que Dieu vient ajouter sur le jeté, quelqu'un. C'est là pour ça que le Seigneur commence à dire que regarde là. Et son problème principal, c'est la prostitution. Elle croit que la prostitution, c'est être au poteau. Elle est une prostituée, celle que tu vois devant toi. Il commence à te montrer. Elle jongle avec Moubou 1, Moubou 2, Moubou 3, Moubou 4 et super Moubou. Vous savez, il faut qu'on vous pousse comme ça pour rendre compte que l'affaire, c'est la bagarre, c'est la lutte. C'est une conscience. Il faut lutter contre le péché. Ce n'est pas la philosophie. Il y a d'autres qui manquent comme il reste. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont l'habitude de manquer, que dire la vérité ne pose de problème. Mais il est évident qu'il est possédé. Mais qu'est-ce que c'est quand il manque d'abord le plaisir après? Il y a d'autres qui ne voient pas au moins 5 lières aujourd'hui, ce n'est pas lui. Il ne dort pas. Il y a d'autres, ça c'est un très grave. Ceux qui écrivent le plus de temps maintenant, la génération SNS. Si le lycée ne va pas en boîte, ce n'est pas elle. Il faut faire le coller la petite à elle, les démons qui viennent pêcher et chasser la nuit. Elle ne sait pas comment la boîte est constituée, elle va se marrer, elle comprend pourquoi elle a développé une addiction à la boîte.
Mais qui danse avec les démons toute la nuit, tous les week-ends? Il y a des cas de possession qui te font travailler. C'est ça pour avoir l'onction, l'autorité de Dieu. Une seule fille a sept maris spirituels. C'est difficile de comprendre ça sur le champ. Tu enlèves un et encore un autre. Parce que comment elle a toutes les bases de la tête? Donc, il se dispute la place. Elle a eu tout ça. Quand
on vous dit ne faites pas quelque chose, vous trouvez ça, nous vous dérange. Vous savez quoi qui les contenu des choses.
Vous savez quoi? On parle sur les filles, on dit qu'à bien, toi bien. Non, mais dis bien comment. Je vais mettre le gros, mais moi je vais t'expliquer. Ah bon? Donc, ça veut dire toujours que quand une marche, les pieds entrent dans les côtés, les gens embrassent les photos, et les voitures font les accidents. Mais toi, fais ça! C'est toi, il y a un homme, c'est ça, mais le soutien pour un truc qui correspond à la taille des têtes de ça. C'est quand même le cas de la poitrine de dehors, le reste est dedans, mais ça doit être le réveil.
En tout cas, ça m'a dit tout.
Quoi?
Dieu a fait ça. Dieu n'y est brouillé. C'est l'esprit de séduction, d'impudicité, de prostitution, de vagabondage qui a attrapé les gens, c'est devenu une épidémie. Les gens ont besoin de délivrance ici dehors. Et tu les regardes comme ça. Ça m'a arrivé. Parce que le Seigneur a souvent cette place. C'est quand les personnes vont souvent arriver comme ça. Passe à côté de moi, tu m'as dit, ça te met tout, Je suis en passant, mais quand on regarde le jeu, tu l'onction de la place, man, pim, les yeux demandent, sors. Prends tes amis, sortez aussi. En pleine route. Ça va arriver. Mais quelle société où on veut guérir les gens, mais ils sont attachés au péché. C'est-à-dire à la source de la maladie. Mais si tu veux agiter les formes et tout le reste, la femme peut dire que tu sois marié. Garde ça dans la maison. Ton mari peut voir, c'est dans ses droits. Mais dès la véranda, avec tout le trouble, le voisin.
Oh. Non, vous m'avez cherché. Là, je suis fatigué. Je ne comprends pas cette vie-là. Écoutez, c'est même toutes les accusés. Tu es enseignant à l'université. Tu es consultant. Je suis de partout. C'est trop. C'est trop. Il y a trop de laideur au fait. Partout. Et je ne sais pas où est l'amour de la qui a dit que quand on regarde une femme de dos, on doit voir d'abord les oreilles du sous-vêtement avant de voir autre chose. Le sous-vêtement, c'est en dessous du vêtement. Ce n'est pas au-dessus. Toujours les vêtements pour montrer les oreilles du sous-vêtement. On met les taille-bas. Quelle taille-bas? Vous parlez de quoi? Comment la nature peut vous avoir suréquipé comme ça? Pourquoi on peut poser un verre? Vous pensez que vous allez porter les courses de la même manière que les blancs qui sont blancs? C'est même quoi? Quand vous êtes en train de recevoir votre délivrance là, parce que c'est ça la délivrance, allez délivrer les autres. Donc, nous entrons dans le ministère de Jésus concernant la guérison. Jésus, en tant que Fils incarné de Dieu, était et demeure l'exacte représentation de la nature et du caractère de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Il y a un enseignement ici, il y a plusieurs enseignements qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ incarne la gloire de Dieu. Vous pouvez regarder Hébreux 1, verset 3, Colossiens 1, le verset 15, Colossiens 2, le verset 9. Qui vont vous confirmer cela. Donc, au cours de son ministère terrestre, Jésus a démontré, à travers ses actions, quelle était la volonté de Dieu. Je vais vous donner plusieurs passages, on ne peut pas tout lire. Mais il est important que vous ayez ces référents. Hébreux 1, verset 3. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 2, verset 9. Vous pouvez en lire dans la foulée, pour ceux qui sont en train de noter. Matthieu 8, verset 14 à 16. Matthieu 9, verset 35. Matthieu 15, verset 28. Oui, lisez ce que vous avez déjà.
Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, après la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Amen.
Colossiens 1, verset 15. Et Colossiens 2, verset 9. Ceux qui ont traqué lisent.
Colossiens 1, verset 15. Qui est l'image du Dieu élevé, le premier-né de toute la création. Amen.
Amen. Colossiens 2, verset 9. On vient de lire 1, verset 15. 2, verset 9.
Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen.
En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Il est plein en tant que Dieu. C'est homme. Plein. C'est Dieu lui-même. La parole s'est faite chair. 1 Jean. Non, Jean 1, verset 14. Elle a habité parmi nous. Elle avait chair. On peut continuer. Matthieu 8, de 14 à 16.
Matthieu 8, 14 à 15, il est écrit. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il poussa sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, en allant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Amen.
Jésus-Christ est la gloire de Dieu et il manifestait la gloire de Dieu à travers la facilité à laquelle il opérait des guérisons, à travers la facilité à laquelle il opérait des délivrances, à travers la facilité à laquelle il opérait des miracles. Et tant qu'on n'avait pas une pleine conscience de la divinité du Christ, on arrivait à comprendre pourquoi il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Puisque la parole le dit encore, il le dit lui-même. Dieu ne peut arriver au Père sans passer par lui. Mais voyons comme vous dites qu'ils vont atteindre le Père en ignorant. D'accord. Voyons s'il peut. Donc, on a Marc 1, le verset 32 à 34, qu'il faut noter, ainsi que 40 à 42. On a Luc 4, le verset 40, j'ai dit Marc 1, 32 à 34, 40 à 42. Luc 4, le verset 40. Et je voudrais qu'on lise Jean 6, le verset 38. Jean 6, le verset 38, parce que Jésus a démontré à travers ses actions quelle était la volonté de Dieu. Lisons Jean 6, 26, 38 qui permet de faire ce cadrage-là.
Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.
Amen. Jésus qui est descendu du ciel. Descendu du ciel. C'est pas une figure de Christ. Dieu a pris pour nom Jésus-Christ pour descendre au milieu des hommes, les racheter et leur montrer le chemin, la démarche, désormais dans la marche avec Dieu. Avant qu'ils prennent ce nom, Jésus-Christ, Emmanuel, c'était le nom, la parole. Je serai la parole. Demain, il faut racheter l'homme qui est perdu, qui n'a plus de route, qui ne sait plus comment trouver Dieu. Il a reçu ce nom, le plus grand de tous les noms. La parole le dit clairement. Tout lui est soumis, tout. On n'a pas dit une partie de la création. Tout est soumis à Jésus-Christ. Ce n'est écrit pour aucun autre prophète. Aucun, dans aucun livre. Fait. Il n'y a que pour Jésus-Christ que cela est dit. C'est pourquoi c'est en lui qu'on a la guérison. C'est pourquoi c'est en lui qu'on a la rédemption. C'est pourquoi c'est en lui qu'on a la délivrance. C'est pourquoi c'est en lui qu'on a le salut.
Amen.
Alors on va les enseignements pour t'attendre à comprendre la profondeur de ce qui se passe. Donc Jésus nous a prouvé qu'il était dans le cœur et dans la nature de Dieu de vouloir guérir tous les malades et tous ceux qui se trouvait sous l'emprise du diable. C'est son but premier. Jésus-Christ est dans une position maintenant d'expiation. Quand vous prenez Ésaïe, ça c'est quelque chose de formidable. Comment ce passage, ça m'a fait réfléchir. Lisez Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Vous lisez ce qui est dit sur Jésus-Christ depuis Ésaïe. Vous revenez lire Matthieu 8. Le verset 16 à 17. Ésaïe 54, de 4 à 5, Matthieu 8, de 16 à 17, et 1 Pierre 2, 24. Ce qui est écrit là sur Jésus-Christ est fabuleux. C'est vraiment quelque chose de merveilleux.
Ésaïe 54, le verset 4 à 5. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre.
Amen.
Amen.
Ne crains pas, car Jésus-Christ est ton époux.
C'est un message merveilleux, rassurant, affermissant, apaisant, confortable et reconfortant. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 8, le verset 16 à 17?
Matthieu 8, verset 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il s'assoit les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que sa conscience qui avait été annoncée par Isaïe le prophète, il a pris nos intimités et il s'est chargé de nos maladies.
Jésus-Christ guérissait tous les... On a dit qu'il y a une maladie qui ne pouvait pas traiter. Mais quand on dit qu'on a un programme spécial de guérison et de délivrance, on a dit qu'il y a une catégorie de maladies qu'on ne va pas recevoir. Pourquoi les gens ont la foi si faible? Pourquoi sont-ils toujours troublés? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont rencontré Dieu? Parce qu'il y a toujours beaucoup d'incrédules. Alors, le Dieu créateur sera, Jésus-Christ sera, de ce ministère, la lumière du monde. Ils seront tellement étourdis par le niveau de gloire du Christ dans ce ministère. Qui seront obligés de chercher sa face malgré eux. Parce que ça dépassera le bon sens, ça dépassera leur compréhension, ça dépassera leur rationalité. En tant qu'envoyé du Créateur, j'entends de toutes les sociétés. Non seulement j'étais impressionné par les gens qui aiment attraper les malédictions, mais c'est un principe historique dans la marche à Dieu. Il n'y a pas de prophète qui se soit élevé sans que les gens attrapent les malédictions. Ça n'existe pas. Chaque fois qu'un prophète se lève, Dieu est là pour dire que, hé, j'ai dit, c'est un quoi? Donc, il commence à attraper la malédiction du prophète. Hein. Quand tu t'attaques au prophète, tu as une alliance avec Dieu. Dieu t'attaque à toi. Que le prophète soit au courant ou pas. Mais il y a d'autres qui veulent que je leur explique pourquoi je suis enseignant d'université, chercheur, chef d'entreprise, consultant et homme de Dieu. C'est moi qui ai fait. Tu reçois une grâce. On n'a même pas demandé ton avis. Tu n'étais pas là tant que ça se concevait. Tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Il m'a choisi. Comme moi, j'explique aux gens. Il ne faut pas qu'on me fatigue. Et la question-là est fondée sur moi chaque jour que Dieu a créé. Non, il y a une fois, je lui conseille de ne répondre pas. Vu que le Seigneur va se glorifier, il comprendra. Donc, vous devez comprendre que la mort expiatoire de Jésus-Christ a pleinement suffit à assurer la rédemption de l'être humain. Corps, âme et esprit. De même que le péché et la maladie sont devenus deux géants suscités par Satan. Vraiment des géants, suscités par Satan. Au vu de notre destruction, le pardon et la guérison sont les deux bénédictions suscitées par Dieu pour notre rédemption et notre rétablissement. Dieu a donné des réponses. Vous pouvez noter Jacques 5, le verset 14 à 16. Donc les croyants doivent en toute humilité, avec soi, chercher à recevoir la pleine provision offerte par l'expiation de Christ, y compris la guérison du corps. Un croyant, quelqu'un qui croit en Dieu, ne peut pas concevoir, ne doit pas concevoir dans son intimité qu'il y a une maladie que Dieu ne peut pas traiter. C'est qu'il n'a pas compris de quoi il s'agit. Appelez ça hépatite A, hépatite Z si vous voulez. VIH, ça a toutes les variantes que vous voulez. Cancer de je ne sais pas quoi, comme vous voulez. Faites tout ce qu'on appelle tout ça. Hypotension, hypertension, montée, descendez, tout ce que vous voulez, tout ça. Il n'existe pas de problème que Dieu ne puisse pas résoudre. S'il a ressuscité Lazare, si lui-même est mort et ressuscité, quelles sont même les limites encore qui existent? Il n'en a plus. Parce qu'il a doublé le diable à l'endroit-là. Le diable le connaissait par ce qu'on appelait résurrection. Quand il a fini de tuer Jésus, il a organisé le tuyau. On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Dan, dan. C'est là où Jésus-Christ lui a démontré que c'est là où toi tu finis que moi je le commande. D'abord il est allé là où lui croyait qu'il avait le commandement. Il est venu là-bas, il a arraché les clés dans le royaume des morts. Il est parti victorieux de là-bas. Il est revenu parmi les gens, il est ressuscité. On est entré dans la tombe, on ne voyait plus rien. Il me dit pas même. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Amen. Dans le royaume du royaume de Dieu. Vous lisez Luc 9, le verset 1 à 2 et le verset 6. Plus tard, il envoya encore 70 disciples. C'est la même chose. Il faut avoir ces références à l'esprit. Il faut savoir ça. On parle beaucoup de 12 disciples où il y a eu Judas Iscariot qui a été remplacé, mais il a, la parole est claire. Après les 12 disciples, il en a envoyé encore 70. Quand tu cherches les démons, tu guéris les gens, ils se trouvent suspects. Mais je dis que, lui-même exerçait le ministère de guérison, lui-même exerçait le ministère de délivrance, lui-même évangélisait. Il a envoyé évangéliser, il a envoyé guérir, il a envoyé délivrer. Voilà les passages. Luc 9, le verset 1 à 2, et ensuite le verset 6, puis Luc 10, le verset 1, oui, le verset 9, 8 à 9. Prenez les deux. Luc 9, 1 à 2, verset 6 en plus. Luc 10, verset 1, 8 à 9.
Luc 1, Luc 9, verset 1 à 2. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donna force de pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérit les malades. Au verset 6, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Amen.
Amen. L'autre passage. Luc 10, 1 et ensuite 8 à 9.
Après cela, le Seigneur désigna 72 et les envoya deux par deux devant lui, dans toute la ville et le qualifié où il devait aller lui-même.
Amen.
Amen. Dans quelques villes, je vous enverrai et où l'on vous enseignera, mangez ce qu'on vous offre. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le règne de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Mais dans quelques villes que vous entriez, et où l'on ne vous accueillera pas. Sortez sur la place du.
Luc 10, verset 1 et ensuite verset 8 à 9. Oui. Alors, après la Pentecôte, l'Église primitive a perpétué le ministère de guérison. Vous n'avez qu'à lire Actes des Apôtres, verset, chapitre 3, verset 1 à 10. On ira pas ça ici, vous prenez la référence. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 10. Vous prenez Actes 5, verset 16. Acte 8, verset 7. Je donne les références pour que vous puissiez être à l'aise dans la durée. Acte 3, verset 1 à 10. Acte 5, verset 16. Acte 8, verset 7. Acte 9, verset 34. Acte 14, verset 8 à 10. Acte 19, verset 11 à 12. Je vais relire. Acte 9. Non, acte 3 d'abord, verset 1 à 10. Acte 5, verset 16. Acte 8, verset 7. Acte 9, verset 34. Acte 14, verset 8 à 10. Acte 19, verset 11 à 12. 1 Corinthiens 12, verset 9 et verset 20. Nous finissons en parlant du Nouveau Testament. J'ai dit que cet enseignement continue demain. Je suis à guérison. C'est un enseignement trop pointu pour qu'on le fasse rapidement. Donc on va conclure là maintenant. Le Nouveau Testament rapporte trois façons à travers laquelle la puissance de guérison de Dieu s'opère. Et comment la foi est communiquée par l'intermédiaire de l'Église. Il y a l'imposition des mains. Il y a la confession des péchés, suivie par l'onction d'huile, pour les malades accompagnés de la prière, de la foi. Il y a les dons de guérison. Donc, concernant l'imposition des mains, vous avez Marc 16, verset 15 à 18. Marc 16, verset 15 à 18. Marc 9, verset 17. Concernant la confession des péchés, suivie de l'onction d'huile pour les malades accompagnés de la prière et de la foi, vous avez Jacques 5, verset 14 à 16. Vous devez nous noter au passage que ce sont les anciens qui doivent faire la prière de foi dans un ministère. Et vous avez le don des guérisons qui est dans 1 Corinthiens 12, verset 9. Donc, levons-nous pour la lecture de ces passages-là, ensemble, pour conclure, n'est-ce pas, cet enseignement aujourd'hui. Marc 16, le verset 19 à 18. Acte 9, le verset 17. Jacques 5, le verset 14 à 16, 1 Corinthiens 12, verset 9. Marc 16, verset 15 à 18.
Marc 16, verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Mmh. que cette parole soit le partage de ce ministère.
Amen.
Qu'elle soit encore plus savante.
Amen.
Le autre passage, c'est Acte 9, verset 17. Acte 9, verset 17, ce restera le passage. Jacques 5, verset 14 à 16, 1 Corinthiens 12, verset 9.
Acte 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Continuez à lire les deux derniers passages que j'ai donnés. Jacques 5, verset 14 à 16 et 1 Corinthiens 12, verset 9.
Jacques 5, verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen.
Amen. Amen. Dernier passage.
1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Amen.
Je vois les gens qui vont recevoir le don de guérison ici aujourd'hui.
Amen.